this kind of music.
Les trans, les PD, les Gwyn et leurs alliés déviants
prennent l'antenne sur Radio Canu,
la plus queer des radios.
Ok, donc les informations, on va partir sur la marche de l'Église trans qui a eu lieu à Paris samedi 11 octobre. Donc c'est une marche qui est à la base on est là pour la visibilité trans et également revendiquer des droits pour les personnes trans. Et en réalité, les personnes qui organisent l'Église trans préfère une intégration puante et s'affilier à des organismes tels que le PS et l'UMP plutôt que de se battre contre les normes de la société. Et en fait, les luttes pour les identités, que ce soit la Gay Pride ou l'existence, ont perdu depuis longtemps leur aspect politique et revendicatif. On est bien loin des émeutes de Stonewall ou des luttes pour la dépsychiatrisation. Et on est tombé dans le spectacle et les thunes. Et bien sûr, les gens demandent l'intégration dans cette société hétéro-patriarcale. Et on fera un reportage sur l'existence dans une prochaine émission de la Déprade.
Alors, pour d'autres infos, il y a Paris, au 14e festival du film Gay et Lesbien de Paris, donc. Et du coup, il se déroulera au Rex, au Latina, du 4 au 11 novembre, et on pourra y voir des réalisations provenant des 5 continents. À noter que le festival accueillera également le réalisateur Bruce Labrousse pour son nouveau film Auto or Up with Dead People. Il y aura une place importante faite au court-métrage dans un appel à film décalé intitulé Sacré Court, où l'on retrouve des thématiques comme le blasphème, la chasteté, la perpétuelle indulgence, l'amour, gloire et beauté, entre autres. A noter également une sélection de films sur les Riot Girls ainsi qu'une séance porn underground. Donc un programme assez intéressant, et pour celles et ceux que ça intéresse plus particulièrement, le site internet c'est ffglp.net. Donc ensuite, en Ouganda, donc le ministre ougandais de l'éthique et de l'intégrité a tenu de violents propos homophobes. Selon lui, l'homosexualité a pris des proportions inquiétantes dans le pays à cause de la mondialisation, l'influence occidentale et l'argent. Alors donc je cite, il y a actuellement une mondialisation de l'homosexualité et certaines personnes en Ouganda essaient d'en profiter. C'est une tentative de mettre fin à la civilisation, c'est vraiment grave. Qui peuplera l'Ouganda dans 20 ans si nous devenons tous homosexuels? Nous savons que les homosexuels ne se reproduisent pas. Bon, il faut savoir également que M. Boutouno, donc le fameux ministre, s'était déjà illustré auparavant en demandant l'interdiction des mini-jupes qui, selon lui, étaient responsables d'accidents de voiture. En Autriche maintenant, donc depuis le 16 octobre, la pornographie homosexuelle peut désormais passer les frontières autrichiennes. Donc à savoir qu'avant, elle était apparentée à de la pornographie dite dure, telle que la zoophilie ou la pédophilie, donc c'est sympa. Depuis une circulaire de mars 2007, donc circulaire qui a finalement été modifiée après de nombreuses protestations de l'association Lambda. Ensuite, on passe à l'Argentine, où une polémique est partie d'une photographie exposée dans un musée de la ville de Rosario, pourtant réputée gay-friendly. Donc cette photo montre deux hommes s'embrassant, mais le détail qui fâche, c'est que l'un est déguisé en Superman et l'autre en Jésus-Christ. Donc l'auteur, Mauro Guzman, a gagné l'année dernière la plus haute distinction de la foire d'art contemporain de Buenos Aires, ce qui en quelque sorte lui permet de faire face aux pressions des personnes qui jugent l'œuvre offensante.
Maintenant, dans la rubrique... on en rigole des couples. Du coup, ça se passe à Nantes, dans la nuit de jeudi 7 et 18 octobre. Là, c'est un tranchant de désaveu. En fait, il y a deux gays qui décident d'entamer leur rupture après une discussion houleuse. Ils s'embrassent une dernière fois. Alors, je sais pas, c'est très romantique. Voilà. Mais le baiser, ça fait sanglant la langue de son compagnon et on arrache une partie. Sans plus attendre, la victime porte plainte pour coups et blessures. Interposée et placée en garde à vue, son ami, après avoir un temps nié les faits, ne peut qu'admettre la version du médecin légiste. Et déféré dimanche, il a reçu une convocation de comparaître devant le tribunal correctionnel de Nantes pour violence sur concubin. Et quant au bout, il a fini à la poubelle. Une greffe n'a été possible.
Donc, ensuite. Dans la rubrique On en rigole, on n'a toujours pas fini de parler de taille de pénis. En effet, une nouvelle invention vient de faire son apparition, le condométrique. Donc c'est la capote qui mesure la taille de votre pénis en vrai. Donc il faut juste espérer qu'il n'y aura pas trop de déceptions. Et pour ceux que ça intéresse, le site c'est curiosité.com/condométrique avec un C à la fin. Donc voilà les infos, pour l'instant c'est fini.
Et du coup, je vais présenter la chanson qu'on a entendu faire un peu tout à l'heure. Du coup, c'est Infidèle Castra. Et c'est la chanson qui s'appelle How It Feels That I Ask For More.
Ok, donc on va maintenant écouter un reportage sur Oasis, qui est une association qui vient du Guatemala. Et c'est une association qui existe depuis 1993, qui est une organisation pour une sexualité sans risque face au sida. Donc c'est une organisation de prévention et de réduction des risques, surtout pour les personnes, pour les lesbiennes, gays, bi, trans et les travailleurs et travailleuses du sexe. Et c'est également une association qui lutte contre les discriminations que subissent les lesbiennes, gays, bi, trans et travailleuses, travailleurs du sexe. Donc cette association, elle mène plusieurs types d'actions. Ils ont fait des manifestations lors d'assassinats de personnes LGBT, des dénonciations devant la justice et également du tapage médiatique en utilisant un peu les médias, en revendiquant leur identité devant les caméras. Ils ont également fait de la prévention, enfin ils font également de la prévention dans les établissements scolaires pour parler de la sexualité et du sida. Ils organisent des groupes de discussion de personnes discriminées. Et en ce moment, ils font une tournée en Europe pour reprendre leurs mots, prendre des forces et continuer leur travail, sachant que les membres d'Oasis sont souvent la cible d'agression de la part de l'État ou de la police. On écoute maintenant le reportage.
C'est que nous invités Zulma et Jorge commencent par présenter un petit peu ce qu'ils sont venus dire ici. Donc on va donner la parole à nos invités. Vamos a darles la palabra ahora.
Ok. Muchas gracias. En Guatemala, la situación de las comunidades de la diversidad sexual.
Au Guatemala, la situación de la communauté de la diversité sexuelle.
Es una situación que nos ha causado mucho dolor.
Es una situación que nos da mucho dolor.
Para poner un poco en contexto lo que sucede en Guatemala.
Pour contextualiser un petit peu ce qui se passe au Guatemala.
Debo decir que tenemos una historia de por lo menos 500 años.
Je dois dire que nous avons une histoire de au moins 500 ans.
De discriminación, la cual comenzó cuando el continente americano fue descubierto.
De discrimination qui commença lorsque le continent américain fut découvert.
Y esto causó ese dolor del que comencé hablando.
Et cela a causé cette douleur de laquelle nous parlons.
Lo cual hace muy difícil comprender que en la cultura prehispánica en Guatemala la homosexualidad era aceptada.
Il faut savoir que dans la culture préhispanique au Guatemala, l'homosexualité était acceptée.
Et actuellement, les homosexuels et les transgéneros et les lesbiennes peuvent être assassinés, incluso par la même police.
Et aujourd'hui, les personnes homosexuelles, transgenres et les lesbiennes peuvent être aller jusqu'à être assassinées, y compris par la police elle-même.
La única diferencia que yo encuentro entre la discriminación que me han contado que existe aquí en Europa y la que existe en Latinoamérica.
La seule différence qui existe entre la discrimination dont on a parlé ici en Europe et celle qui existe en Amérique latine.
Es que en otras partes del mundo, como Estados Unidos y posiblemente Europa, existe un marco legal en donde se puede pedir unas investigaciones y un debido proceso para poder encontrar a los culpables de esa discriminación.
C'est que aux États-Unis en Europe, il y a des appareils légaux et judiciaires qui permettent de poursuivre les personnes qui sont les auteurs de cette discrimination.
Sin embargo, allá nos ocurre precisamente que son los policías quienes hacen la mayor cantidad de acciones en contra de nuestras familias.
Au Guatemala, il se trouve que ce sont les policiers qui occasionnent la majeure partie des maux envers nous et notre famille et nos familles.
Y tenemos, por ejemplo, 10 años de estar documentando crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género.
Cela fait 10 ans que nous répertorions les actes de haine envers la diversité sexuelle.
Y ninguno de los casos que hemos registrado han tenido ningún tipo de proceso.
Et aucun des cas que nous avons enregistrés n'a pu déboucher sur un procès.
Quisiera comentar dos casos especialmente.
Je voudrais commenter deux cas particuliers.
Y estos dos casos para nosotros son muy importantes.
Ces deux cas sont très importants pour nous.
Precisamente porque son dos casos en donde hemos encontrado evidencias de que fue el Estado de Guatemala el que ejecutó a estas personas.
Car dans ces deux cas nous avons trouvé des preuves que c'était l'État du Guatemala qui a exécuté ces actes.
Claro que comprendemos la diferencia entre la responsabilidad hacia el Estado de Guatemala como un Estado.
On comprend la différence entre l'État du Guatemala comme
por haber ejecutado a estas personas y la responsabilidad de los soldados y los policías que jalaron el gatillo de estas pistolas.
Donc la responsabilité de l'État du Guatemala d'un côté et celle des policiers et des militaires qui exécutèrent ces actes en personne.
Por supuesto que hay muchísimos otros crímenes de odio por orientación sexual y identidad de género.
Il y a un nombre important d'actes de haine envers les personnes qui revendiquent leur orientation sexuelle et de genre.
Y no significa que la vida de estas personas sea menos importante que la vida de dos defensoras de los derechos humanos.
Ça ne signifie pas que la vie de ces personnes est moins importante que celle des personnes défenseuses des droits humains.
Sin embargo, comprendemos también que si logramos encontrar una sanción en contra del Estado de Guatemala por estas ejecuciones.
Mais si nous arrivons à avoir une sanction envers l'État du Guatemala pour ces exécutions,
automatiquement estaremos protegiendo la vida de muchos otros seres humanos.
Automatiquement, cela permettra de protéger la vie de nombreux êtres humains.
El primero de ellos fue una ejecución extrajudicial que sufrió María Conchita.
Le premier cas est une exécution extrajudiciaire dont a été victime María Conchita.
Ella era una persona transgénero, trabajadora sexual, que fue ejecutada extrajudicialmente por dos soldados del ejército de Guatemala.
C'était une personne transgenre, travailleuse du sexe, qui a été exécutée de manière extrajudiciaire par deux soldats.
Oui, ben, qu'est-ce que ça veut dire extrajudiciaire?
Es una ejecución, es un asesinato cometido por empleados públicos.
Ce sont une exécution, un assassinat commis par des employés publics.
Et el caso de María Conchita para Oasis fue una cosa muy especial porque en ese momento descubrimos que las personas transgénero y los gays éramos comunidades completamente diferentes, aunque pensábamos que éramos la misma comunidad.
El caso de María Conchita fue un caso importante porque nous avons découvert a través de él que la situación de personas transgénero y gay era realmente diferente, alors que nous pensions que c'était très proche.
El segundo caso que quiero comentar es la ejecución extrajudicial de Paulina.
El deuxième cas que je veux commenter c'est l'exécution extrajudiciaire de Paulina.
Y fue asesinada por cuatro policías de la Policía Nacional Civil.
Elle a été assassinée par quatre policiers de la Police Nationale Civile.
De este caso nos va a hablar un poco más a fondo Zulma.
Zulma va nous parler un peu plus profondément de ce cas.
Buenas tardes, mi nombre es Zulma Robles, soy una persona transgénero.
Bonsoir, je m'appelle Zulma Robles, je suis une personne transgenre.
En el 2005 sufrí un atentado contra mi vida, donde perdí la vida una compañera mía.
En 2005, j'ai été la victime d'un attentat contre ma vie, dans lequel une de mes amies a perdu la vie.
Uh-huh. Ella era Paulina.
C'était Paulina.
Uh-huh. Lamentablemente, que en nuestro país no se nos da el derecho de trabajar como uno quisiera, tiene que trabajar el comercio sexual.
Il ne nous est pas donné l'opportunité de travailler comme nous le souhaitons et nous devons, à cause de cela, travailler dans le domaine du travail du sexe.
Ya que el Estado guatemalteco no da el derecho de trabajar como personas normales.
L'État du Guatemala ne nous donne pas le droit de travailler comme des personnes normales.
Somos discriminadas, estigmatizadas y rechazadas por la sociedad más que todo.
Nous sommes discriminés, rejetés par la société dans son ensemble.
Es así como nosotros tenemos que ganarnos la vida, pues hemos intentado trabajar en lugares donde la sociedad nos rechaza por tener otra identidad de género.
Somos obligados de trabajar en lugares donde la sociedad nos confina por causa de la identidad de género.
Antes de que me ocurriera esto, intenté trabajar en maquilas.
Avant, je travaillais dans les maquilas, qui sont de grandes usines.
Donde pésimamente fui rechazada por ser transgénero.
Dans lesquelles j'ai été rejetée pour être transgenre.
Pagaba muy mal, porque lo que ganaba una persona normal, y a mí me pagaban la mitad de lo que ganaba una persona normal. Y encima de eso trabajaba más de las horas que tenía que trabajar, y ganaba menos.
Et donc je gagnais la moitié du salaire d'une autre employée en travaillant pourtant plus en heures.
Es así como preferí mejor salirme de ahí y salir a trabajar a las calles.
Donc j'ai préféré m'en sortir et commencer à travailler dans les rues.
la vida en las calles no es, o sea, se gana muy bien, pero también es muy cruel porque sufre discriminación por parte de la sociedad civil.
Donc, travailler dans les rues se voit l'objet d'une discrimination de la part de la société civile.
Et par parte de l'État, et par parte del, je pourrais dire de l'État.
Et de la part aussi de l'État.
Comme lo es la Policía Nacional Civil que lo extorsiona a uno.
Par exemple, la police nationale civile extorque les unes et les autres.
Et tenemos que salir. Tenemos que salir adelante a pesar de todos los obstáculos, tenemos que hacerle frente a la vida.
Mais malgré tous ces obstacles, nous sommes obligés de sortir pour affronter.
Hasta que me tuvo que suceder lo que me tuvo que suceder, pues dejé de trabajar. Tengo aproximadamente 2 años y medio de ya no trabajar en las calles.
Donc ça fait environ 2 ans et demi que je ne travaille plus dans la rue. Ah oui, depuis l'assassinat qui a eu lieu et dont tout le monde a été témoin.
He sido testigo de lo que le ocurrió a mi compañera y desde ese entonces para acá, pues, he sido una persona que he estado bajo medidas cautelares.
Donc j'ai été témoin de ce qui est arrivé à mon amie. Elle était protégée par des mesures de protection, en fait, policière.
Y el propósito de esto es para que hacer algo para que nuestros derechos como personas transgéneros, pues, sean válidas.
L'objet de sa lutte, c'était de faire des choses afin que les droits des personnes transgenres soient validés en tant que tels.
Estamos luchando para que nuestros derechos como personas, pues, se reconozcan ante la sociedad civil.
Nous luttons pour que nos droits en tant que personnes soient reconnus par la société civile.
Y nos respeten tanto a mí como a mis demás compañeros.
Et que l'on nous respecte à moi comme mes autres amis.
No hay muchos grupos en la sociedad guatemalteca de las comunidades de la diversidad sexual.
Je trouve qu'il y a peu de groupes dans la société guatemalteque qui se revendiquent de la diversité sexuelle.
Es prácticamente Oasis quien está haciendo de sombría en Guatemala.
C'est un peu Oasis qui réunit un petit peu ces courants en Guatemala.
Hay algunas otras organizaciones que están en proceso de fortalecimiento.
Il y a d'autres organisations qui sont en train de se renforcer.
Y, por ejemplo, existe una organización muy linda que se llama Les Viradas.
Il y a par exemple une belle association qui s'appelle Les Viradas.
Que es una organización que nació dentro de Oasis, como todo lo de la diversidad sexual en Guatemala.
C'est une association qui est née au sein de l'Oasis, comme beaucoup d'autres dans la diversité sexuelle au Guatemala.
Y ellas luchan por el respeto de las lesbianas.
Por el respeto de lesbianas.
Existe también una organización llamada Gente Positiva.
Y una otra organización se llama Personas Positivas.
Que son prácticamente un grupo de personas viviendo con VIH homosexuales, tratando de que se logren respetar los derechos humanos de todas las personas que viven con VIH.
Son des personnes qui sont issues de la communauté homosexuelle et qui vivent avec le VIH et qui essaient de faire reconnaître les droits de toutes les personnes qui vivent comme elles avec le VIH.
Lamentablement, les ressources qu'il y a pour travailler en matière de droits humains de la diversité sexuelle sont demasiado restringidos.
Les ressources que nous avons, matériel que nous avons pour lutter autour de ces thématiques sont très restreintes.
Y esa experiencia la hemos vivido en carne propia en Oasis.
Cette expérience nous l'avons vécue dans notre chair à Oasis.
Porque nosotros podíamos encontrar muchos más recursos cuando trabajábamos el SIDA desde una perspectiva clínica médica.
Nous pouvions avoir plus de ressources financières lorsqu'on travaillait seulement sur la question du SIDA dans une perspective clinique.
Porque cuando nos cambiamos a la defensa y promoción de los derechos humanos como tal, perdimos los financiamientos.
Quand on s'est ouvert à la défense des droits humains en tant que tel, nous avons perdu beaucoup de sources de financement.
En Guatemala, hay un colectivo que es de es, somos transexuales, de transexuales, se llama Colectivo Trans Reinas de la Noche, que lo fundamos en Oasis hace 6-7 años, tal vez, pero
4 años.
Cuando teníamos 3 años de cuando iniciamos en un, en una cafetería. Ajá. Cuando comenzamos a reunirnos.
Okay. Au Guatemala, il y a un collectif de personnes transsexuelles qui s'appelle Trans Reine de la Nuit, qui est né au sein de Caviria il y a 3-4 ans. Au sein de
Guatemala. Et si, tenemos asistencia médica por parte del Ministerio de Salud, que es un centro de salud.
Donc nous avons une assistance médicale de la part du ministère de la Santé, qui est un centre de santé.
Para las trabajadoras del sexo, las trabajadoras del sexo.
Por la diversión trabajo del sexo.
Son contextos muy específicos. Sin embargo, conocemos que hace algún corto tiempo se fundó la red LACTRANS, que es la red latinoamericana de personas transgénero.
Donc ce sont des contextes spécifiques, mais récemment s'est créé un réseau de personnes trans au niveau latino-américain.
Y hemos comenzado a tener contacto con las personas que integran esta red, no solo para aportar lo que en Guatemala está sucediendo con las personas transgénero, sino también para solicitar apoyo en los temas que ya han discutido en otros países.
Donc nous entrons en contact avec ce réseau non seulement pour porter ce qui se dit au Guatemala, mais aussi pour solliciter un appui concernant les autres sujets et luttes qui ont été plus développés dans d'autres pays d'Amérique latine.
Obviamente, si estamos hablando de un grupo discriminado dentro de los grupos ya muy discriminados en la diversidad sexual.
Donc si il s'agit d'un groupe discriminé le plus discriminé parmi les groupes discriminés au niveau de la diversité sexuelle,
podremos comprender muy fácilmente que la red latinoamericana de personas transgénero es una red que tiene muchas dificultades para poder operar porque tienen sus propios contextos en donde incluso las organizaciones gays o lésbicas las han discriminado en la misma región.
On peut comprendre alors que c'est particulièrement difficile de faire un travail pour ce réseau, en sachant que donc il y a des contextes très très variés de discrimination.
Est-ce que les personnes trans sont discriminées par rapport donc à la discrimination comme en France ou en Europe en étant considérées comme des malades mentaux ou pas?
Si en Guatemala existe consideran a las personas transgénero transexuales como enfermas mentales, consideran que esto es una enfermedad mental.
Sí, en algunos casos hay gente que se nos tacha como enfermos.
Como depravados.
Como depravados sexuales.
Y eso no, nos prend por des malades y des depravés sexuels.
On enchaîne maintenant avec une petite gender blague. Combien faut-il de queer pour faire fonctionner une radio?
Alors moi je sais pas, mais en tout cas 4 c'est pas assez vu les problèmes techniques.
Ok, alors là après Oasis on va se faire une petite chanson où on va écouter Rosé. Ça s'appelle Seul.
Retrouve-toi seul, sans tes origines, renvoie-les à tes ancêtres. Juste pour un moment, le temps de te retrouver, seul. Sans une couleur de peau et sans une religion. Envoie ça à tes ancêtres, juste le temps de te trouver, seul. Retrouve-toi seul, sans ton pays. Prends un moment pour être ni de la politique ni de la géographie. Tu n'es pas un contexte et tu n'es pas une situation. Tu naquis d'un contexte et tu crées les situations. Alors retrouve-toi seul. Retrouve-toi seul, sans tes amis, sans l'affection, sans le groupe. Tu n'es pas le groupe parce que le groupe n'est pas un. Et les guerres intestines ne touchent pas tes intestins. Alors retrouve-toi seul. Retrouve-toi seul, sans tes ennemis. Ils ne le sont qu'à cause d'une histoire de groupe, ou de situation, ou de pays, ou d'origine. Alors retrouve-toi seul, sans tes ennemis. Retrouve-toi seul, sans ton sexe, sans ton genre. Le sexe est un outil, c'est un détail. Le genre est une posture, c'est un rôle. Tu n'es pas un détail et tu ne prétends pas jouer un rôle. Alors retrouve-toi seul, sans ton sexe, sans ton genre. Retrouve-toi seul, sans ton prénom, sans ton nom. Mets-les de côté pour pouvoir t'observer sans que ce soit eux qui te servent de reflet. Sans leur connotation, sans leur sonorité. Renvoie ça au langage, juste le temps de te retrouver seul. Retrouve-toi seul, sans ton visage. Tu le vois par les yeux des autres, mais sans eux tu ne l'as pas, tu ne l'as plus. Ne les laisse pas te modeler, te remodeler. Tous ces déguisements qui rendent l'intérieur inaccessible et si étrange à soi-même jusqu'à en avoir peur, de regarder dans son intérieur et de ne voir que du vide et de tomber parce qu'on se rendrait compte qu'il n'y a aucun artifice assez solide à l'intérieur où l'on pourrait se rattraper. Alors on a peur d'être seul comme si on avait peur de soi-même.
Ok, alors un petit jingle en live pour présenter une rubrique d'information. Donc le 4 août 1982, il y a eu la dépénalisation de l'homosexualité en France, qui était jusque-là criminalisée et psychiatrisée. Cela a permis à des assos de voir le jour, cependant ça n'a changé que trop peu de choses à l'homophobie constante. On reste dans un système hétéro-patriarcal où l'homosexualité est acceptée seulement si elle va dans le sens de la norme hétéro, mariage, enfant, consommation, etc. Et c'est en 1991 que l'OMS retire l'homosexualité de sa liste des maladies mentales sur laquelle figurent encore aujourd'hui la transsexualité, l'ESM, etc.
C'est inadmissible.
Et maintenant, il va y avoir un micro-trottoir.
Nous sommes au centre commercial de la Part-Dieu, un mercredi après-midi pour un micro-trottoir. La thématique, homosexualité et psychiatrie.
Alors, est-ce que vous savez à quelle date l'homosexualité n'a plus été considérée comme une maladie mentale par les psychiatres américains ? Une année. En quelle année ça a été plus considéré comme une maladie mentale?
Je sais pas du tout. Non, je sais pas. Non, je sais pas.
Aucune idée?
Ah non, non, je pense quand même.
1412? Non, pas mal.
Non, non, mais plus tard. Beaucoup plus tard. Ouais, plus tard. Bah alors quand?
Ouais, je sais pas.
Non, bah.
Au pif.
1900.
Ouais, moi j'ai
après 1900.
Ouais.
Ok, merci.
Les réponses sont un petit peu hésitantes. Nous nous dirigeons ensuite vers un autre groupe de femmes.
Est-ce que vous savez à partir de quelle date l'homosexualité n'a plus été considérée comme une maladie mentale par les psychiatres américains? Environ, à quelle date?
Aucune idée.
Je sais pas, dans les années 50, 60 plutôt.
Aucune idée.
Merci.
Nous allons ensuite à la rencontre d'une troisième personne.
Alors, c'est juste pour savoir si vous pensez que l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale ou pas dans les catégories des psychiatres aujourd'hui.
Non, c'est pas une maladie mentale, absolument pas. C'est pas une maladie mentale.
Et est-ce que vous auriez une idée, et du coup c'est plus considéré aujourd'hui par les psychiatres comme une maladie mentale, mais est-ce que vous savez jusqu'en quelle année ça a été considéré comme tel?
Non, je ne sais pas, franchement non, je ne sais pas. Bah, peut-être qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas, il y a 20 ans à peu près on va dire. On est que ça?
Un petit peu plus. Merci.
Les hésitations persistent. Mais alors, quand donc l'homosexualité a-t-elle donc cessé d'être psychiatrisée? Était-ce donc au début du XXe siècle, dans les années 50-60, ou bien il y a simplement 20 ans? Et puis, comment ça s'est passé? Tout d'abord, rappelez que le manuel de référence en psychiatrie qui est utilisé internationalement, en particulier pour les recherches statistiques, s'appelle le DSM-4. C'est un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. En anglais, on dit Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. C'est c'est-à-dire DSM. Et nous en sommes actuellement à la 4e édition. C'est un manuel de référence très utilisé. Et il est édité par l'Association américaine de psychiatrie, American Psychiatric Association, APA. Il a fallu, à l'intérieur de cette association américaine de psychiatrie, qu'il y ait un rapport de force qui se mette en place entre les psychiatres homosexuels et le reste de la communauté des psychiatres. C'est seulement en 1972 qu'il y a eu de nombreuses conférences. Et c'est enfin en décembre 1973 que le comité de nomenclature de l'APA, du coup de l'American Psychiatric Association, a organisé un vote et décide, dans la plus grande confusion, de supprimer l'homosexualité de la classification officielle des troubles psychiatriques. C'est en mai 1972, à Dallas, qu'un jeune psychiatre américain, John Fryer, accepte de participer à une conférence qui vise à établir le dialogue entre les psychiatres et les homosexuels. Puis il faut dire que ça fait quelques années là que les relations entre psychiatres et homosexuels étaient devenues ouvertement conflictuelles. En effet, il y avait les communautés gays qui revendiquaient publiquement le droit à un style de vie différent, qui était en train de se former dans la plupart des villes américaines. Et pendant ce temps-là, l'ensemble de l'institution psychiatrique et psychanalytique continuait de camper sur sa conviction que l'homosexualité, caractérisée comme une perversion de l'instinct sexuel, est pathologique. Donc forcément, ça crée des tensions grandissantes et il faut vraiment qui est un rapport de force qui est posé par des personnes qui sont et psychiatres et homosexuels. Et cette tension, elle est palpable à tous les niveaux, puisqu'il y a il y a plein de spécialistes de la question qui ont plein d'imagination pour proposer des nouveaux moyens thérapeutiques pour mettre fin à cette maladie qu'est l'homosexualité. Oui, soignez-nous. Et donc, ils organisent des symposiums psychiatriques, etc., qui sont interrompus par des activistes. Et donc à l'intérieur même de la communauté psychiatrique, des clivages apparaissent. Et c'est d'ailleurs là le sens de la présence de John Fryer à cette conférence en 1972. Il est invité en tant que psychiatre et homosexuel et il entend représenter l'ensemble des psychiatres homosexuels de l'Association américaine de psychiatrie qui milite pour mettre fin à la stigmatisation dont ils sont victimes. Notamment le simple fait d'être homosexuel est jugé incompatible avec l'exercice de leur profession de psychiatre. Donc c'est l'année suivante qu'il y a un comité spécial au sein de l'Association américaine de psychiatrie qui est mis en place pour réévaluer cette question. Et voilà, c'est donc en décembre 1973 que le comité de nomenclature de l'APA organise le vote et décide de supprimer l'homosexualité de la classification officielle des troubles psychiatriques. Nous allons encore interviewer une dernière personne qui nous dit en plus avoir vécu aux États-Unis. Écoutons donc ce qu'elle nous dit, imaginez, du lien entre homosexualité et psychiatrie aux États-Unis.
Est-ce que vous pensez que l'homosexualité fait encore partie des... pour les psychiatres, est considérée comme une maladie mentale ou non ?
Non, je pense pas. J'espère que non.
Et depuis combien de temps du coup, en effet, c'est plus considéré comme tel. Et du coup, c'est surtout les psychiatres américains là, qui créent des catégories et qui ensuite sont utilisées par beaucoup de gens dans le monde et tout ça.
Ouais.
Et du coup, en quelle année, à votre avis, ils ont arrêté de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale ?
À mon avis, c'est il n'y a pas longtemps. Ça ne doit pas dater de plus de 5 ans, à mon avis. Parce que bon, je pense aux États-Unis, ils sont un petit peu aérés. J'ai habité là-bas 15 ans, donc ils ont dû mettre un bon moment à réaliser.
Ok, merci.
Malgré la généralisation sur la connerie des Américains, alors que nous, on parlait en particulier d'une communauté de chercheurs qui est la communauté des psychiatres, il me semble intéressant de noter cette date de 5 ans qu'elle nous a donnée. Alors en effet, 5 ans, ça ne correspond pas avec la dépsychiatrisation de l'homosexualité, car on l'a vu tout à l'heure, c'est en décembre 1973 que l'homosexualité est supprimée de la classification officielle des troubles psychiatriques l'APA, c'est-à-dire l'American Psychiatric Association. Mais par contre, cette date des 5 ans me paraît tout de même pertinente. C'est l'occasion de quitter un tout petit peu le domaine de la psychiatrie pour considérer rapidement le domaine des lois. Et il se trouve qu'il y a 5 ans aux États-Unis, il n'y a que 5 ans, en 2003, que la Cour suprême des États-Unis a déclaré anticonstitutionnelles les lois de certains États fédérés contre la sodomie. Alors, on fait un petit lien rapide avec la sodomie qui peut paraître évident, même si on peut éviter les amalgames. Et c'est surtout préciser qu'en anglais, sodomie avec un Y, donc, ne désigne pas seulement la pénétration anale. En effet, dans les expressions comme « sodomy law », il s'agit des lois qui régissent les pratiques acceptées ou interdites dans tel ou tel État américain. Et il faut comprendre sodomie comme pratique sexuelle jugée déviante, parmi lesquelles, outre la sodomie, c'est-à-dire la pratique anale, il y a aussi la fellation et le cunnilingus. Donc ces lois, le plus souvent, sont des manières, ou étaient des manières, d'interdire l'homosexualité. Bref, pour revenir donc aux États 2003... La Cour suprême des États-Unis déclare anticonstitutionnelles les lois de certains États fédérés contre la sodomie. Elle viole en effet le 14e amendement de la Constitution qui protège la vie privée et la liberté des citoyens américains. 13 États fédérés, situés surtout dans le sud du pays, pratiquaient jusqu'alors des lois contre la sodomie entre adultes consentants, dont 4 condamnaient aussi les fellations, c'est-à-dire le Texas, le Kansas, l'Oklahoma et le Missouri.
C'était Dover. Et du coup, comme le début de l'émission a un peu merdé, on va refaire le programme de la Fistie des Praves. Du coup, là, c'est J-5. On est tous un peu tendus dans la préparation. On a des milliers de trucs à faire. Mais du coup, pour vous faire envie, on va décrire ce qui va se passer jour par jour.
Alors, ça va commencer ce mercredi 29 octobre. Alors, à 14h, il y aura un atelier pour faire de la radio associative, Radio Limite, Radio des Praves, ça vous fait rêver. Ben, venez participer, venez faire votre petite émission de radio. Ça va être génial et ça va être fantastique et super. À 20h, il y a la soirée de lancement du Freakzine. Donc, le Freakzine, c'est un super zine de fric, trans et des gouines, etc., etc. Et il y a eu le numéro 0 qui est sorti l'année dernière, qui était fabuleux et tout et tout. Voilà, fantastique. Ah, génial, wonderful. Et là, il y a le numéro 2 qui est devant nous. J'ai hâte de le feuilleter personnellement parce qu'il a vraiment l'air très très intéressant.
Ah, et vivement mercredi.
Voilà, c'est à 20h et la boum, ça sera sur le thème le fric. F-R-E-A-K, c'est chic. Donc voilà. Jeudi 30, alors, à 14h, il y aura un atelier à la friche, mécanique, mini-jupe, vernis à ongles. Donc c'est à destination des personnes mettant ou ne mettant plus rarement des mini-jupes et du vernis à ongles, souhaitant faire de la mécanique. Donc si vous avez envie d'avoir les mains un peu cracra, être sale, dégoûtante, ne sentir pas très bon, mais savoir comment fonctionne un moteur, comme ça, ça peut toujours servir dans la vie quand on est en panne, on n'a pas l'air bête quand des gens parlent de ça autour de nous. Enfin, je comprends rien. Voilà. Donc il y a ça. À 18h, là, ça va, on va arrêter le côté pratique et on va être un peu plus dans un truc intellectuel. Il y a une discussion pour construire des politiques féministes et transpédéguines au niveau local, national, international et pourquoi pas conquérir le monde tous ensemble. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, les gens que ça intéresse. Voilà.
Le vendredi 31 octobre, il y aura un atelier drag queen et drag king, et également une préparation de la marche qui suivra dans la soirée, avec une préparation de banderoles et de slogans, pour ensuite investir la rue avec une marche transpédéguine, avec des paillettes, des talons et du rose, et du rose et encore du rose. Pendant la soirée, il y aura une performance de PD de synthé avant la mort. Et également, Merci la nuit qui va venir mettre un peu de son. Et s'en suivra une boum. Le samedi 1er novembre, il y aura un atelier écriture à 11h. Ensuite, un atelier Gwix sur les sexualités gwyn lesbiennes à 12h. Et puis à 16h, une discussion sur le travail du sexe. Les concerts le soir, ce sera une grande soirée de concerts avec deux groupes de hip-hop hyper connus, les Queer MC et Viscéralement Déviant. Et également tout un groupe, enfin tout le groupe des gens de Toulouse, les Van Van, les Gorgones et Infidèle Castra. Donc une énorme soirée de concert.
Et après la soirée le dimanche, on va faire de l'autodéfense à 15h pour se remettre de la soirée, autodéfense transpédéguine. Et le soir, on va faire une nuit carrément, c'est même plus des soirées, c'est des nuits, des films queer et porno. Et du coup, il y aura des courts, des longs, tout un tas de films chouettes. Et le lundi, ça sera lundi et mardi, il y aura deux ateliers de play piercing, les après-midi. Et le lundi, il y aura une discussion sur l'homophobie.
C'est moi parce que j'ai le Freakzine qui est tellement intéressant et je fais du bruit en tournant les pages.
Du coup, une discussion sur femme-phobie, femme-lover dans le milieu queer à 18h. Et le soir, il y aura les monologues du vagin, une pièce de théâtre. Et du coup, là, j'ai une minute pour donner où ça se passe, parce qu'on a ouvert une belle maison bourgeoise qui s'appelle le Coco Charnel. Mmh. Et du coup, cette maison, c'est là où on va pouvoir dormir, manger, etc. Et ça sera le point central du festival. Et du coup, elle est située au 83 avenue Lacassagne, à Lyon 3e. Et il faut vraiment faire gaffe, parce que l'arrêt devant la maison, il y a à peu près tout le temps les contrôleurs. Du coup, il faut faire gaffe à ça. Et après, il y aura, ça se passera aussi dans d'autres lieux, mais ça, si vous venez là, vous le saurez.
Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours écrire à transpedeguinelyon@no-log.org.
Et PD, et c'est au singulier, et PD, il n'y a pas d'accent.
Et voilà, à dans deux semaines. Ciao.
Salut. Ciao, salut.
Ibrahim, hors de tôle, 8-6 crew, harmoniska, partisan, libre comme l'air, c'est ce qu'on vient de s'écouter sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Les autres parlent à leur portable et sourient aux caméras. Leur vie est plus supportable si on les suit pas à pas, mais pas moi. Les autres s'intéressent au sport, ils vont crier dans les stades. Ils aiment les gens sains de corps, même s'ils ont l'esprit malade, mais pas moi. Je ne suis pas né sur terre. La nature m'a fait une force. Je me sens seul et j'ai l'air arrivé tout droit de la planète Mars. Les autres admirent les winners, même si ce sont des salauds. Ils disent qu'on a souvent tort de vouloir être réglo, mais pas moi. Les autres pensent que la révolte, c'est bon quand on a 20 ans. Ils disent, quoi que l'on vote, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, mais pas moi. Je suis l'homme venu d'ailleurs.